Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous vous apprêtez à écouter l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel, présenté aujourd'hui par Eric, accompagné de Serge. Bonjour Serge.
Bonjour.
Et de Didier. Bonjour Didier.
Bonjour à tous.
En partenariat avec l'Observatoire astronomique d'Agnane. Et aujourd'hui, nous allons parler des premiers instruments astronomiques qui ont permis à l'homme de placer un petit peu les étoiles dans le ciel et de faire des découvertes, et certaines découvertes dont nous parlerons en deuxième partie, qui sont les comètes. Hein, on reviendra. Alors, il y a déjà eu une émission sur les comètes il y a quelque temps, mais là, on va vous parler de deux comètes en particulier qui vont bientôt apparaître dans le ciel. Voilà. Alors, je vous ai dit, on va parler d'instruments, et on va parler surtout des tout premiers instruments, depuis que l'homme est sur la Terre, il s'est aperçu que la voûte céleste était occupée par des petits points brillants, et que ces petits points brillants, ils revenaient régulièrement, et il a tout de suite compris qu'il se passait des choses là-haut. Et donc, pour faire des observations, il a eu besoin d'instruments. Et le premier instrument, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ?
Il ne s'agit certainement pas d'un instrument optique, puisque il n'y avait pas la connaissance à l'époque. Donc je pense qu'on va partir sur quelque chose de beaucoup plus basique, qui est basé plus sur une observation physique.
Voilà, tout à fait. Effectivement,
d'un phénomène.
Les appareils optiques sont apparus au XVIIIe siècle, hein, avec les inventions, alors fin XVIIe, début du XVIIIe. Mais avant ça, on se servait d'optique essentiellement visuelle, avec l'utilisation uniquement de l'œil. Et le premier, il a été créé il y a quand même à peu près un peu plus de, on le remonte à un peu plus de 3500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est aujourd'hui certainement l'instrument scientifique et astronomique le plus ancien au monde, qui est d'ailleurs encore en utilisation. On y reviendra tout à l'heure. Alors, cet instrument, il avait une forme très simple, puisque c'était un bâton, un simple bâton. Et le bâton, ça s'appelait un gnomon. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de l'origine du mot gnomon ?
Alors, de ce que j'en ai lu, il semble que ça vient d'un mot grec, en fait, qui signifie un indicateur.
Voilà, tout à fait. C'est un bâton dont se servaient nos ancêtres pour faire des recherches et avoir une précision sur quelque chose. Alors, ils se servaient d'un bâton, mais également d'un élément essentiel, l'étoile la plus proche de nous, c'est-à-dire le Soleil. Il y a très très longtemps, l'homme a compris également que le Soleil jouait un rôle au quotidien dans la vie de la Terre. Et ils ont décidé de se servir de ce Soleil pour prendre un certain nombre de mesures. La première mesure qu'ils ont prise, c'est tout simplement la direction du Nord et du Sud. En effet, en plantant un bâton, quand il fait beau, et quand le soleil est à son, quand il arrive au méridien, c'est-à-dire qu'il est midi au soleil, l'ombre qui est indiquée par le bâton va nous donner la direction du sud et du nord, suivant l'hémisphère dans lequel on se trouve. Donc, pour nous, dans l'hémisphère nord, le bâton indiquera...
Le sud. Attends.
La question piège. Le soleil étant
non,
dans l'hémisphère
nord. Non, on est au nord. Effectivement, l'ombre projetée du soleil va indiquer le nord.
Voilà, et le nord géographique, et non pas le nord magnétique.
Ah, oui.
Et dans l'hémisphère sud, bien sûr, ce sera l'inverse. Et donc cette direction est essentielle pour déjà s'orienter et savoir un petit peu où est-ce que l'on est. Alors, le bâton, le gnomon, nous indique la position du soleil, le nord, mais également tout un tas de choses à partir de ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec le gnomon ?
Ben, je Il me semble que les premiers Grecs qui se sont intéressés à ce phénomène, en fait, ont observé au fil de l'an, du temps qui s'écoule, que l'ombre portée par le bâton diminuait ou augmentait aussi bien durant une journée que tout au long de l'année. Et au fur et à mesure, au début de la journée, par exemple, cette ombre, elle n'est pas, pour ainsi dire, infinie, puisqu'elle est rasante. Et lorsqu'on arrive, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'heure du midi, au zénith, cette ombre est la plus courte à un moment donné de l'année. Et ensuite, elle redevient rasante à la fin de la journée. Donc, ce sont des phénomènes que les Grecs anciens, en particulier, puisque nous avons des informations qui ont été rapportées sur ces observations, eh bien, ont cherché à en savoir plus, en particulier sur la Terre, sur la position de la Terre par rapport au Soleil, et en fait, le positionnement de cette ombre tout au long de l'année a permis aux observateurs de deviner l'orientation de l'axe de la Terre. Ils étaient capables de déterminer que la Terre, en fait, avait une inclinaison par rapport au Soleil et que la Terre tournait, a priori. Enfin, il y avait un système de rotation tout au long de l'année entre la Terre et le Soleil. Semble-t-il. Peut-être oui, pourras-tu apporter quelques précisions.
Voilà, une petite précision. Le soleil, quand il est midi, il n'est pas au zénith, il est au méridien. Il n'y a qu'un seul endroit, enfin, une seule bande sur la Terre où le soleil se trouve au zénith, à midi, c'est entre les deux tropiques. Dans nos latitudes, ici, par exemple, à Saint-André, ou dans les Raux, voire même en France, le soleil ne pourra jamais être au zénith, puisque nous sommes trop haut en latitude. Et ça m'amène à parler de quelque chose d'intéressant en parlant du zénith, parce que le gnomon, ce fameux bâton tout simple, qui est planté par terre, alors pas n'importe comment bien sûr, mais il a servi à une chose importante. Il a servi notamment à déterminer la circonférence de la Terre. Vous imaginez, avec un simple bâton, on arrive à calculer la circonférence de la Terre. Alors, c'est Ératosthène, un mathématicien, physicien et philosophe qui vivait à peu près entre 200 et 300 ans avant Jésus-Christ, qui a calculé ça. Alors Ératosthène a pris son bâton, il l'a planté de façon bien horizontale et bien verticale. Alors il se serait, selon même les dires, mais là, alors, c'est pas lui qui le rapporte, ça a été rapporté à peu près 200 ans après Jésus-Christ par Cléomède. Et il se serait servi également d'un obélisque. Alors, les obélisques, pour tuer tout de suite une croyance, les obélisques égyptiens n'ont jamais servi de gnomon ni de cadran solaire. Mais lui, il s'en est servi pour déterminer l'ombre. Et surtout la position du soleil, parce qu'il savait qu'à Sienne... Alors, il connaissait bien Sienne, puisqu'il était originaire, il est né à Sienne. Alors, Sienne, c'est actuellement Assouan. Mais Sienne, qui était distante d'environ un millier de kilomètres, au sud d'Alexandrie, il y avait un puits. Et dans ce puits, le soleil se reflétait quand il était midi solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sienne est exactement sur la ligne du tropique du Cancer. Et donc, quand il était midi solaire, le soleil se reflétait dans le puits, ce qui donnait une indication précieuse à Ératosthène. En calculant à midi solaire et ce jour-là l'angle du soleil à Alexandrie, grâce au gnomon et à l'ombre qu'il projetait, il a pu déterminer, par un calcul relativement simple, alors on ne va pas rentrer dans les calculs parce que à la radio c'est pas pratique et puis c'est surtout pas très compréhensible, mais grâce à ces calculs d'angle, il a réussi à déterminer le diamètre de la Terre en y rajoutant la distance entre Sienne et Alexandrie. Alors, oui. Comment à l'époque comment on faisait pour calculer les distances? Eh bien, on employait des gens qui étaient payés pour ça. qui s'appelaient des bématistes et qui allaient, alors soit en marchant, soit avec des chameaux, soit avec des mulets. On a une incertitude sur la méthode employée par Ératosthène, mais il est certain qu'il a employé des bématistes pour calculer. Alors, le mètre n'existait pas encore, on calculait ça en stade. Là aussi, incertitude sur la valeur du stade, puisque selon où l'on habitait, le stade avait une valeur différente. Mais il n'en demeure pas moins que Ératosthène a calculé un diamètre, une circonférence de la Terre qui s'approche de façon remarquable des calculs actuels. Et donc, c'est quand même assez remarquable, hein, puisqu'elle l'a calculé à peu près à 39 000 km, hein, si on convertit, alors qu'aujourd'hui, on en est à un petit peu plus de 40 000. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable d'avoir fait ça avec un bâton,
oui,
si on veut.
Absolument.
Voilà. Alors, ce gnomon, on a dit qu'il servait à représenter la direction nord-sud. Tu l'as dit, Didier, il a servi également à déterminer un parcours bien particulier qui a permis également, qui a débouché sur le calcul des saisons. C'est comme ça qu'on a compris qu'il y avait des saisons. Parce que, à l'époque, on était sur la théorie où la Terre était le centre de l'univers et le Soleil tournait autour de nous. On ne parlait pas encore de géocentrisme et d'héliocentrisme, mais le principe, c'était ça. Et on a compris que la Terre était plus ou moins proche et surtout que la position du Soleil variait effectivement d'un jour à l'autre et surtout d'un mois à l'autre. Ça a débouché très rapidement sur une chose très importante pour nous aujourd'hui, c'est la division du temps. Ça a permis le gnomon de savoir qu'il était presque midi, donc il était l'heure d'aller manger. Quand on était en fin d'après-midi, c'était l'heure d'aller rentrer les bêtes. C'était le matin, c'était l'heure de les sortir, de faire la traite, etc. Et plus rapidement, mais ça pourra faire l'objet d'une autre émission, on a débouché sur la division du temps et l'invention des heures. Alors ça, c'est une autre émission, et là, je pense qu'on y prendrait à peu près toute la matinée. Alors, le gnomon, j'ai envie de dire que vous en avez un magnifique en France, un magnifique gnomon qui se situe à Paris. Alors, il y aura bientôt du monde à Paris, hein, avec les Jeux Olympiques. Alors, si vous vous trouvez là-bas, faites un petit tour sur le champ de Mars. Vous avez un obélisque qui a été ramené par Napoléon, qui a été placé là. Alors,
l'obélisque de la place de la Concorde.
De la place de la Concorde, pardon. Oui, pas du champ de Mars. Le champ de Mars était en Italie, pardon. L'obélisque de la place de la Concorde, il a été transformé à l'année 2000 en un gigantesque cadran solaire. Et il reste encore des vestiges de ce cadran, hein, sur la place. Alors par contre, moi je vous invite à beaucoup beaucoup de prudence, hein, parce que si vous allez lire l'heure sur les petits pavés de laiton qui sont mis en plein milieu de la chaussée, prenez garde parce qu'il y a beaucoup de circulation et ça peut devenir dangereux. Donc voilà. Mais le gnomon, aujourd'hui, j'ai dit 3500 ans avant Jésus-Christ, on est en 2024, et bien le gnomon, il est sur la Lune. Et il est sur Mars. Alors, je ne sais pas, Didier, est-ce que tu as des éléments à nous donner là-dessus ou je peux continuer ?
Alors, de ce que j'en ai lu, j'ai quand même cherché un peu à m'informer. Je trouve que le sujet est malgré tout très intéressant parce qu'un objet aussi simple et basique qui sert depuis l'Antiquité, et qu'on est capable de retrouver, en fait, face à toute la technologie moderne, je trouve ça assez extraordinaire. Et donc, effectivement, le gnomon a servi lors des missions Apollo, toutes les missions Apollo qui ont été sur la Lune, à positionner géographiquement les instruments de mesure sur la Lune en recherchant le nord géographique, justement grâce à sa propriété de base qui est de repérer ce fameux nord géographique grâce à l'ombre portée. Quelque chose de tout simple. Et lors de une mission sur Mars qui date de 2018, je crois, c'est la mission InSight, on s'est servi du même système et c'est un robot qui s'est posé et qui a mis en place un mini gnomon pour déterminer le nord géographique de Mars afin de positionner correctement certains instruments de mesure.
Petit cocorico quand même, hein, parce que sur la mission InSight, le gnomon qui a été conçu, il a été conçu par la France. Et notamment par une personne qui est un grand spécialiste des cadrans solaires, Denis Savoie, qui fait partie de la Société Astronomique de France, et qui a participé non seulement à son élaboration, mais également à la vérification des calculs. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors vous voyez, le gnomon aujourd'hui, 2024, il est sur Mars, il a commencé sa carrière très tôt sur Terre, et où va-t-il s'arrêter? On n'en sait rien. Pourquoi pas sur une autre planète, hein. Voilà. Mais si vous nous rejoignez, je vous rappelle que vous êtes bien sur les ondes de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud et que vous écoutez l'Astromag, votre rendez-vous astronomique mensuel avec aujourd'hui deux thèmes principaux qui sont les gnomons, les instruments visuels hors optique et on va parler bientôt des comètes. Alors, on a parlé du gnomon, et ce gnomon servait effectivement à observer la position des astres et calculer un petit peu notre temps. Il a été décliné très rapidement, puisque on a voulu savoir un petit peu beaucoup plus de choses sur le ciel en instruments de mesure. Et ces instruments de mesure, on a inventé les ancêtres de notre sextant actuel, qui est toujours utilisé notamment en marine. Et alors, ça ne s'appelait pas des sextants, bien sûr, puisque sextant, c'est le septième partie du cercle, mais on avait des quarts de cercle, qui permettaient, la nuit, de positionner les étoiles et les astres, et également de déterminer le mouvement de ces astres dans la sphère céleste. Et c'est comme ça qu'un jour, on s'est aperçu qu'il y avait non seulement des astres fixes, mais également des astres errants. Et les astres errants, en fait, ce sont quoi? Ce sont des planètes. En grec, planète, en grec ancien, ça veut dire astre errant. Et on s'est aperçu très rapidement, on a découvert Jupiter, Vénus, Saturne et Mercure, donc les principales planètes de l'époque. Il est venu rapidement Mars, puis beaucoup plus tard, mais à l'aide d'instruments d'optique, les autres planètes. Mais également, on a découvert des astres un petit peu particuliers qui avaient une brillance bien particulière avec une queue lumineuse qu'on appelait les astres chevelus, qui sont les comètes. Et là, je pense que je vais passer la parole à Serge, qui lui est plus porté sur les comètes que sur les gnomons.
Merci Eric. Effectivement, 2024 sera l'année des comètes. Donc, on en a déjà annoncé au moins trois. Donc la première, elle est en ce moment au-dessus de notre tête. Elle s'appelle C-de-travers 2021 S3 Pan-STARR. Donc c'est une comète que l'on peut voir. Alors, oubliez un peu l'idée qu'on peut voir toutes les comètes à l'œil nu. Il faut qu'elle vraiment elle soit exceptionnelle. Mais avec un petit matériel, une bonne paire de jumelles, un petit télescope, on peut déjà chercher des comètes. Donc, Pan-STARR, elle passe au-dessus de nous en ce moment, elle va bientôt même disparaître. Et donc, je vais vous donner un point de repère, si vous voulez chercher cette comète. Aux alentours du 13 mai, elle passera dans la constellation du Cygne, au niveau de Deneb, qui est la queue. Deneb, c'est la queue en arabe. Et donc, c'est un point de repère. Et donc, Pan-STARR sera visible jusqu'à fin mai, début juin, et après, elle disparaîtra. La deuxième que je vous propose, c'est 12P Pons-Brook. Alors, c'est une comète qui est bientôt à l'approche. C'est une comète périodique. Donc les comètes périodiques, vous avez sûrement dû en parler précédemment. Donc ce sont des comètes qui reviennent après une périodicité. Donc la plus connue, c'est Halley. Et celle-là, elle revient aussi tous les 71 ans. Elle a été découverte par un Français dans les années 1800. Et Elle a été retrouvée un peu plus tard par un autre astronome qui s'appelait Brooks. Donc le premier s'appelait Ponce. Et donc Brooks l'a redécouvert et a défini un peu de l'endroit où elle venait, où elle allait et pourquoi elle était périodique. Et donc, je vais vous donner encore un point de repère. Le plus beau moment de cette observation sera entre le 11 et le 13 avril. Et il y aura une magnifique conjonction entre Uranus, Jupiter et la Lune et la comète. Voilà, donc vous aurez ces quatre éléments en même temps visibles. Alors, bien sûr, elles seront un petit peu séparées, mais ça vous donne déjà un bon point de repère. Vers 21h, si on a un beau ciel bien dégagé, eh bien, on pourra observer cette belle comète Ponce-Brooks. J'ai gardé la meilleure pour la fin, puisque la fin, c'est en fin d'année. C'est tiré de travers 2023 Tsuchinshan Atlas, donc c'est un astronome chinois, et confirmé par l'observatoire Atlas. Donc, elle a été découverte en 2023, et donc elle arrive en fin d'année. On devrait l'observer entre le 10 et le 11 octobre. Donc, elle va émerger de la constellation de la Vierge. Et donc, elle passera sous le Bouvier. Elle prendra la direction de la constellation de l'Aigle. Elle traversera le Triangle. Et donc, vous pourrez comme ça suivre cette belle comète. Donc, je vais vous donner encore pour celle-ci un point de repère. Par exemple, le 15 octobre, on devrait la voir dans la constellation du Serpent, au niveau de Messier 5. Elle traversera le Serpentaire le 22 et 23 octobre vers 20h, et elle prendra la direction de la constellation de l'Aigle en novembre. Pour terminer, je vais vous donner deux applications qui sont très bien pour suivre ces objets. Alors moi, je m'en sers pour les comètes, mais on peut s'en servir pour autre chose. Alors, la première, c'est Sky Tonight. C'est une application payante. Elle coûte 2,50 €, mais ça vaut le coup de la télécharger. Et puis la deuxième, Sky Live, c'est une application de Starwalk qui est gratuite, qui est très bien. Moi, je m'en sers régulièrement. Elle est même mieux que Stellarium. Dans ces cas-là, vous pouvez suivre le cheminement de ces comètes. Et puis peut-être, on en découvrira d'autres en cours de route. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé des comètes observables à l'œil nu. Là, on a vu une, Neowise. Peut-être que Tsuchinshan sera la nouvelle Albop de 1997. On espère qu'on pourra la suivre sur plusieurs mois, le jour comme la nuit. Voilà, je te laisse la parole, Eric.
Oui, on vous tiendra au courant, puisque tous les mois, on vous donne un petit peu la liste des éphémérides. C'est ce que je vais faire maintenant, et on en reparlera certainement. Alors, donc, on va commencer les éphémérides, comme d'habitude, par les planètes. Alors, Mercure est difficilement visible et devient rétrograde à partir du 1er avril. Vénus devient quasi inobservable. Mars, elle est repérable le matin, de plus en plus tôt, donc il faut se lever plus tôt, mais sans grand intérêt car elle est très très éloignée de la Terre. Jupiter est encore repérable à l'œil nu et observable aux jumelles, mais de plus en plus bas sur l'horizon. Saturne revient dans le ciel du matin, dans un ciel déjà très clair, donc le repérage de Saturne reste compliqué. Uranus, c'est comme Jupiter, c'est quasiment terminé. Et quant à Neptune, n'en parlons pas, circuler, il n'y a rien à voir. En ce moment, on ne l'observe pas. Alors le 20 mars, on est à l'équinoxe de printemps, donc même durée pour le jour et la nuit. Et le 25, on a une éclipse de Lune par la pénombre, qui est quasi invisible en soi, parce que la Lune sera pratiquement couchée. Donc c'est un événement, pour le voir, il va falloir se déplacer. Le 31 mars, on change d'heure encore une fois, et on avance nos pendules d'une heure. Le 7 avril, c'est l'une des dernières chances pour espérer repérer Vénus dans l'aube, qui est accompagnée d'un fin croissant de lune. Alors peut-être que de belles photos à faire. 8 avril, éclipse totale du soleil, mais malheureusement, elle ne sera pas visible dans l'Hérault. Et le 10 avril, Jupiter, Uranus et la Lune sont visibles ensemble dans les jumelles. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir écouté l'Astromag et votre rendez-vous astronomique mensuel sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. On se retrouvera au mois d'avril pour la prochaine émission dont nous ne connaissons pas encore la thématique.